Le journal vous est présenté par Anne Fauquemberg.
Bonsoir. Les risques de la migration clandestine au cœur des discussions entre le président du Niger et Emmanuel Macron. Le chef de l'État termine sa visite dans cet État d'Afrique de l'Ouest, également confronté au djihadisme. Compte rendu de notre envoyé spécial Franck Cognard au début de ce journal. L'université de Grenoble autorise une soixantaine de migrants à rester dans des locaux inoccupés le temps des vacances de Noël. Mais en dépit de sa bonne volonté, situation complexe pour le coprésident de l'université. Nous entendrons le témoignage de Patrick Lévy. La présidentielle de l'an prochain en Russie, Vladimir Poutine adoubé au congrès de Russie Unie, le parti au pouvoir, correspondance à Moscou de Jean-Didier Revoin dans un instant. Et puis c'est une affaire qui reflète la schizophrénie de la société iranienne. Soirée entre garçons et filles organisée la nuit dernière pour la fête du solstice d'hiver près de Téhéran. 230 jeunes interpellés par la police des mœurs. Analyse à suivre du spécialiste du pays, Mohamed Reza Djalili. Emmanuel Macron devait quitter le Niger cet après-midi après avoir rencontré le président du pays, Mahamadou Issoufou. Le chef de l'État a fait un point d'étape sur le déploiement de la force G5 Sahel, mission soutenue par la France pour lutter contre les groupes djihadistes de la région. 5 pays participants, le Mali, le Tchad, le Burkina Faso, la Mauritanie, mais aussi le Niger. Les deux chefs d'État ont également évoqué les risques de la migration pour les candidats à l'exil vers l'Union européenne. C'est un compte-rendu de notre envoyé spécial Franck Cognard.
En un an, le Niger, dit son président, a divisé par 10 le nombre de migrants en transit vers la Libye. Pour autant, humainement, humanitairement, rien n'est réglé. Ce défi sera long à surmonter, mais Emmanuel Macron désigne une cible.
Ça prendra du temps, à coup sûr. Mais je pense qu'on peut gagner cette bataille, y compris dans le temps, si nous sommes aussi très durs à l'égard des passeurs et des trafiquants de la misère. Et nous le serons.
Même tonalité dans le discours du président nigérien, un passage sur l'inhumanité de la situation, les corps brûlés par le désert ou noyés en Méditerranée, et là aussi, pour Mahamadou Issoufou, une même cible.
Les passeurs qui transportent les migrants à Libye reviennent au Niger avec des armes. Moi, j'ai le devoir de défendre la sécurité des Nigériens. J'ai le devoir de défendre la sécurité des frontières de mon pays. Donc, pour cette raison, je ne peux pas accepter que une activité criminelle comme la migration clandestine compromette la sécurité du Niger.
Déclaration martiale des deux présidents, matinée d'impuissance toutefois, les deux savent que rien ne pourra changer sans que la Libye ne soit stabilisée.
Précision de notre envoyé spécial au Niger, Franck Cognard. À Grenoble, une soixantaine de migrants ont été autorisés à rester dans des locaux inoccupés de la fac de droit sur le campus universitaire. Décision de la direction du site jusqu'à la fin des vacances de Noël. L'histoire remonte en fait au début du mois. Les migrants avaient d'abord fait irruption dans un amphi avant que l'université ne mette à leur disposition des bureaux chauffés voués à la démolition. Ils devaient quitter les lieux hier pour un gymnase mis à disposition par la préfecture de l'Isère. Mais les réfugiés n'ont pas voulu s'y rendre par crainte des contrôles de police. Le coprésident de l'université de Grenoble-Alpes, Patrick Lévy, est préoccupé car l'université ne peut pas à long terme se substituer au service de l'État. On écoute Patrick Lévy au micro de Véronique Puyot, notre consoeur de France Bleu Isère.
On ne pourra pas maintenir au long cours 60 personnes dans 120 mètres carrés, malgré toute la bonne volonté, parce que il y a de la bonne volonté de la part des migrants eux-mêmes, bien entendu, et des gens qui les aident, leur réseau, du réseau associatif qui est autour. Par ailleurs, au patio, il y a assez régulièrement des familles qui ne devraient pas se trouver là, mais qui sont hébergées pour la nuit. Enfin, c'est une situation vraiment très complexe, et je pense qu'elle reflète quand même la situation très difficile dans laquelle sont les migrants et aussi les gens qui sont à la rue dans notre région. C'est vraiment une situation sur laquelle je souhaite quand même attirer l'attention des pouvoirs publics parce que ça n'est pas à l'université d'assumer cette responsabilité. Nous le faisons parce qu'il n'y a pas de choix. Et c'est une situation extrêmement préoccupante.
Des propos recueillis par Véronique Puyot de France Bleu Isère. À l'étranger, aux Philippines, les secours sont à pied d'œuvre dans l'est de l'archipel qui a subi une grave tempête tropicale. Il y a au moins 133 morts et des dizaines de disparus. 80 000 personnes ont par ailleurs été évacuées dans des centres d'accueil d'urgence à cause de ces intempéries. En Russie, c'était le congrès de Russie Unie, dont le Premier ministre Dmitri Medvedev est le chef de file. Un congrès qui s'est tenu en présence du chef de l'État, Vladimir Poutine, qui briguera son 4e mandat à la tête du pays l'année prochaine. Vladimir Poutine qui a reçu, sans surprise, le soutien de la puissante formation politique et qui a plaidé pour une opposition responsable et capable d'agir. L'analyse à Moscou de Jean-Didier Revoin.
À quelques heures de l'annonce de sa candidature, le 6 décembre dernier, Vladimir Poutine avait souligné qu'on ne pouvait devenir président de la Russie qu'avec la confiance et le soutien de la population. Le président sortant peut désormais, même si ce n'est pas une surprise, compter sur le soutien de Russie Unie, le premier parti du pays qui revendique 2 200 000 adhérents et près de 900 000 sympathisants. Son chef de file, l'ancien président russe et actuel premier ministre Dmitri Medvedev, lui a assuré tout le soutien possible du parti, maintenant et à l'avenir, définissant Vladimir Poutine comme un leader soutenu par la majorité des citoyens du pays. Le président russe, qui a assisté à une partie du congrès, a remercié les participants et donné quelques indications sur les axes de sa campagne. Vladimir Poutine estime en effet qu'on ne peut obtenir le soutien de la population qu'à condition de bâtir une politique de long terme. Il s'est donc engagé à relancer la croissance économique et à améliorer les services de santé. Nous devons parvenir à faire progresser à long terme les revenus réels des citoyens de façon à augmenter les retraites et les prestations sociales, a souligné Vladimir Poutine, appelant une nouvelle fois à davantage de concurrence politique. Une notion qu'il a immédiatement précisée en appelant à traiter avec respect l'opposition responsable et capable d'agir. En d'autres termes, les opposants qui disposent d'un plan clair d'action positive par opposition à ceux qui ne font que se battre contre le pouvoir et l'accuser de tous les péchés mortels. Une façon d'inciter la population à aller voter, car si sa victoire ne fait quasiment aucun doute, un faible taux de participation serait considéré comme un affront.
L'analyse de notre correspondant à Moscou, Jean-Didier Revoin. Moscou qui accuse par ailleurs les États-Unis de favoriser, je cite, un nouveau bain de sang en Ukraine. Réaction à la décision de Washington hier d'attribuer une nouvelle aide militaire à Kiev pour aider le pays à assurer sa souveraineté territoriale. Les régions sécessionnistes de l'Est sont en effet toujours en proie aux tensions. L'Union européenne a d'ailleurs voté cette semaine la prolongation de sanctions économiques contre la Russie pour son implication présumée dans le conflit en faveur des séparatistes. Et puis, nouveau rappel à l'ordre ce matin de la chancelière Merkel et d'Emmanuel Macron, les deux chefs d'État qui réaffirment leur attachement à la mise en œuvre des accords de Minsk signés en 2015. En Iran, 230 jeunes personnes ont été arrêtées la nuit dernière dans les environs de la capitale. Ils célébraient la fête traditionnelle de Yalda, organisée pour le solstice d'hiver. Des jeunes qui ont bu de l'alcool et qui se sont retrouvés entre garçons et filles sans être mariés, ce qui est interdit dans ce pays. La police des mœurs les a interpellés grâce aux réseaux sociaux et aujourd'hui, ces jeunes risquent des amendes et des coups de fouet, notamment pour ceux qui ont organisé l'événement. Pour le politologue iranien Mohammad Reza Jalili, cette affaire révèle une nouvelle fois la schizophrénie de la société iranienne.
Peut-être que c'est un exemple pour un peu faire peur aux gens. C'est un système qui fonctionne sur ça. Hein. Toutes ces fêtes, la République islamique ne les aime pas, mais après 40 ans, les gens les font encore plus qu'avant. Parce que c'est une sorte de grimace au système. De la musique, de l'alcool, mix, tout ça, ça leur plaît pas du tout. Mais c'est habituel depuis 40 ans, la révolution islamique, c'est ça. Mais ça n'empêchera pas qu'il y ait d'autres soirées qui s'organisent. Hein. C'est absolument certain, parce que les Iraniens ne sont pas du tout des couche-tout et des gens qui n'aiment pas les fêtes. Bien sûr, tout est hypocrisie, évidemment. Tout ça, c'est du cinéma, je dirais. C'est une société qui est devenue schizophrène. Ils ont une vie intérieure complètement différente de la vie extérieure, pour ne pas avoir d'ennui, en fait, c'est ça. Au lieu d'avoir des boîtes comme partout ailleurs dans le monde, ils sont obligés d'organiser des fêtes dans les appartements, dans les maisons, parfois à la campagne. Certains vont dans les zones désertiques et en bus, etc., et organisent des rêves, on appelle ça. Ils provoquent même ces autorités aussi pour se moquer d'eux, en fait, aussi. Moi, je pense pas que c'est un événement unique. C'est probablement, le nombre est assez impressionnant. Mais ce n'est pas quelque chose d'inhabituel en République islamique.
Des propos recueillis par Sarah Cosolino. La météo, demain dimanche 24 décembre, encore un ciel gris et couvert sur une grande moitié nord avec quelques pluies dans les Hauts-de-France, en Normandie et en Bretagne. De belles éclaircies toutefois dans l'après-midi en Nouvelle-Aquitaine, ciel lumineux au bord de la Méditerranée. Les températures 6 à Lyon et Strasbourg, 9 à Lille, Paris et Marseille, 10 à Brest et jusqu'à 11 degrés à Cherbourg. Ce journal a été préparé avec Caroline Beneteau à la technique, c'était Pierrick Monsigny.